RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Les grandes gueules en direct sur RMC, la radio, RMC Story, la télé autour de la table. Aujourd'hui, Didier Giraud, notre agriculteur de Saône-et-Loire, Zora Bitan, la fonctionnaire, et Joël Dagosséry, notre coach de vie. On n'en peut plus. J'ai envie de dire, on n'en peut plus de cette pluie qui ne cesse de s'abattre sur la France. 36 jours de pluie consécutifs. C'est un record. On n'a jamais vu ça depuis 1959. Quasiment toute la France est concernée, avec des départements qui sont particulièrement touchés, qui sont toujours en vigilance rouge. Notez que la Gironde et le Lot-et-Garonne sont quasiment en vigilance rouge depuis plus d'une semaine. C'est-à-dire que vigilance rouge crue. Donc ça veut dire qu'il y a toujours ce risque d'inondation. Il y a des gens qui ont les pieds dans l'eau, qui ont tout perdu. Quand est-ce que ça va se terminer ? Bah malheureusement pas tout de suite, parce qu'il y a la tempête Pedro qui arrive sur la France. Déjà ce matin, il y a une première perturbation qui arrose copieusement la Bretagne, la région parisienne, et puis ça va se déplacer. Le sud-ouest demain sera une nouvelle fois en première ligne, il va subir de fortes pluies avec aussi un violent coup de vent. Il faut s'ajouter, alors il y a les crues bien sûr, mais il y a aussi le risque de fortes vagues, parce que les coefficients de marée sont au plus haut. Et donc là, c'est une grande inquiétude, notamment sur tous les départements côtiers. Il y a des conséquences bien sûr matérielles, des conséquences sur la vie des gens, des conséquences pour les agriculteurs. Il y a, je le rappelle, un Français sur quatre qui vit en zone inondable. Donc il va falloir aussi se poser des questions. Et déjà, le premier montant qui circule du côté des assurances, c'est 1 milliard d'euros de dégâts. Ça veut dire aussi que nos primes d'assurance seront plus élevées l'année prochaine. Bah oui, parce qu'il n'y a pas de secret. Alors, bien sûr, ça nous inquiète tous. Didier, je voudrais aller vers toi. Quand tu es agriculteur, que tu as des tonnes de flotte à gérer, par exemple pour tes bêtes, comment ça se passe?
Alors, moi perso, j'ai quelques soucis cette année parce que tous mes animaux ne tiennent pas dans l'étable. Donc j'ai des animaux dehors, et c'est vrai que ce temps-là, ça défonce tout. Ça, t'as beau leur mettre à manger dehors, ils en font pas. C'est pas efficient, quoi. Ils mangent plus et c'est pas efficient. Et après, il y a aussi tout le travail des champs, quoi. Enfin, tout ce qui est céréales, tout ce qui est, il ne se passe rien, quoi. Là, ça serait la saison où faudrait commencer à mettre des engrais, mais tu peux pas passer dans les champs, quoi. Là, tout le monde est fermé dans les cours de ferme, il se passe rien parce que c'est détrempé partout. Et du coup, au niveau agricole, moi, je me pose aussi d'autres questions. C'est quid du stockage, parce que derrière des périodes aussi longues de pluie sans discontinuer, on sait un truc. C'est qu'on aura soif à un moment donné, quoi. La pluviométrie, je veux bien que le climat change, mais la pluviométrie, c'est une moyenne sur l'année, quoi. Et tout ce qui est en train de tomber, ça tombera pas cet été, ça je vous l'annonce.
Donc ça veut dire qu'on pourrait en profiter pour stocker de l'eau avec des bassines?
Ben, avec ce qu'on veut.
J'ose le mot, des méga bassines, parce
non, mais tu vois,
ça sert à rien. Il y a un trop plein d'eau, donc on pourrait en stocker.
Voilà, aujourd'hui, là, ils peuvent toujours me dire que les nappes phréatiques sont pas à niveau, quoi. Je veux dire,
ça
à un moment
difficile.
Donné, quand tu regardes l'état des fleuves, les cinq grands fleuves, qui sont tous à la cote d'alerte, hein, dès que t'approches de l'embouchure, ils sont tous à la cote d'alerte. Donc ça veut dire que les bassins versants sont remplis. Il y a plus de zones en France aussi aujourd'hui où on est en déficit hydrique. Donc ça veut dire que toute cette eau qui tombe, si on était intelligent, on serait capable de la stocker, et elle nous servirait à faire de l'irrigation et à rendre de l'eau l'été, peut-être même de l'eau potable, tu vois. Il y a un moment donné, le stockage de l'eau, et si vraiment le climat change, enfin, moi j'ai lu un truc là-dessus, enfin, on était au bout du Gulf Stream, si tu veux, le décalage un peu lié au réchauffement climatique fait que ce Gulf Stream, il va se décaler un peu, et nous, on va prendre des perturbations tout l'hiver.
Les experts nous expliquent.
Mais on aura des sécheresses l'été, quoi.
Ils nous expliquent qu'il pleuvra plus l'hiver, il fera plus sec l'été, mais voilà. Donc là, l'idée, c'est effectivement de stocker l'eau l'hiver pour en avoir l'été.
Je pense qu'il faut qu'on s'inspire
du bon sens.
des climats méditerranéens qui très rapidement, dans les années 50, ont commencé à stocker de l'eau pour pouvoir ne pas en manquer l'été. Aujourd'hui, on a des moyens modernes pour stocker de l'eau qui pourraient nous permettre de la rendre, je te dis, même potable dans certaines zones. Il va manquer de l'eau potable.
Mais d'abord, bon, il a plu, il pleut depuis 36 jours.
Mais on n'y peut rien.
Ça, c'est, on n'y peut rien. Première
on
chose.
Subit.
Ce qui est intéressant à observer, c'est que justement, compte tenu de ces phénomènes climatiques qui nous arrivent parfois la canicule et parfois beaucoup de pluie, parfois des inondations, il y a même parfois des cyclones, ouais, quelque part, c'est, il faut observer comment la classe politique anticipe et organise. Non mais en fait c'est parce que nous en tant que citoyens, à part payer plus d'assurance,
la classe politique elle est au pouvoir parce que on le veut bien, c'est-à-dire c'est les élections démocratiques libres.
Les
citoyens peuvent faire pression aussi.
Mais bien sûr,
sur le maire, tiens, les municipales c'est dans 4 semaines. Monsieur le maire, pardon Zora, mais là t'es dans un village.
J'ai même pas fini.
Non mais t'es dans un village inondé. Tu vas voir ton maire, tu dis très bien, qu'est-ce qu'on fait la prochaine fois?
Bah oui.
J'ai pas fini. J'ai dit que à partir du moment où tout le monde sait que les pouvoirs publics savent qu'aujourd'hui nous sommes confrontés à ce type de phénomène. Les plans, c'est pas sur 3 jours. Les plans, c'est pas sur 1 mois. Les plans, c'est sur la durée. Donc, comment, y compris avec les maires, et là je te rejoins Didier, Olivier, avec les maires, comment nous organisons les infrastructures, les maisons, etc., de manière à, comme tu dis, à la fois se servir de l'eau pour qu'elle puisse servir. À la fois les constructions, qu'est-ce qu'on m'en... Le problème, c'est qu'on n'a pas de visibilité. C'est-à-dire que t'organises...
Refuser les permis de construire systématiquement en zone inondable...
T'organises ça sur 40 ans, 50 ans, tu commences maintenant. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui découvrent « Ah bah mince, il y a toute une zone résidentielle avec 5000 habitants qui sont en zone inondable. » Ouais, ok, on le savait, mais on a quand même donné le permis. C'est pas grave.
Donc, les gens ont acheté en connaissance de cause.
Oui, bien sûr, mais tout le monde achète en zone
inondable. Parce qu'en général, c'est moins cher.
Tout le monde achète en zone inondable. Oui. Tout le monde, parce que tout le monde est confronté.
Tu le sais, l'information est obligatoire.
Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est à la fois que les collectivités locales soient mobilisées, c'est important, mais que l'État ait un plan de restructuration de manière à ce que tu pourras payer autant d'assurance que tu veux. Ça réglera pas le problème.
Alors d'accord, mais mettons les pieds dans le plat. Il va falloir dire aux gens de déménager.
Oui,
il y a des gens.
Non, Olivier, avant d'en arriver là, arrêtons de donner des permis de construire en zone inondable.
Voilà.
Parce que aujourd'hui, il y a des gens qui vont délivrer des permis de construire en zone inondable.
Zone à forte inondation, pas des zones.
Mais pardon, mais quand tu as un procès sur 4 en zone inondable, il faut bien loger les gens.
Oui.
Donc
il faut se poser.
Ou alors tout le monde sera en montagne.
Mais en même temps, tu vois, sur ce que je disais dans le stockage de l'eau, où je rejoins Zora, c'est que il y a pas besoin d'un grand plan de l'État pour faire ça. Mais au moins quand il y a un opérateur privé qui a un projet, et qu'on arrête de le faire chier.
Voilà, exactement.
Qu'on arrête de le faire chier sous couvert d'écologie, de normes,
et
de machin, de trucs.
Et d'ailleurs que l'État aille chercher les meilleurs experts, parce que l'État c'est des gens qu'on a mis au pouvoir pour nous représenter et faire tourner la France, on est d'accord. Donc ils aillent chercher les meilleurs experts et qu'ils leur disent, voilà, un, il y a le stockage de l'eau, et deux, qu'est-ce qu'on fait pour les gens qui demandent des permis, quelle est la meilleure stratégie à adopter, et deux, comment on fait pour reloger des gens qui sont dans des risques inondables extrêmes. Ça se réfléchit, comme si demain matin on allait avoir une solution. Mais enfin, on a mis des gens plus intelligents, soi-disant, au pouvoir pour gérer ce genre de questions. Donc, payer l'assurance à 10%, 20%, 30% plus cher chaque année, ça résout rien du tout.
Joël Dagosséry.
Non, mais ce qui nous tue, c'est des gens qui gouvernent avec l'idéologie et pas avec du pragmatisme et du bon sens. Le bon sens et le pragmatisme, ça a disparu totalement de la tête de nos gouvernements. Parce qu'en fait, celui qui va aller interdire les permis de construire, tu crois qu'il va être réélu? Ben non, lui, il pense à sa prochaine réélection et que les gens vont pas être contents parce qu'en fait, ils peuvent pas construire leur petite maison, etc. Donc quand ta visibilité, quand ton objectif, c'est l'élection, ben, je peux te dire qu'il y a un tas de trucs que tu vas pas mettre en place. Et encore une fois, l'aménagement du territoire, je veux dire, c'est pas pour les chiens, hein. C'est pas, le, penser l'aménagement du territoire mais sur oui. plusieurs années. Déjà. Sur 30 ans.
Sortir un PLU, ça prend 15 ans. Hein.
Oui, bah, voilà. Et ben, c'est pas pour les chiens, ça. Je veux dire, c'est pour ça qu'on paye des gens et avec l'argent public. Malheureusement, ils le font pas. Moi, ce que j'ai pensé aussi, je me suis dit, mais attends, si t'as des récoltes qui sont autant impactées, c'est pas que la prime d'assurance qui va augmenter. C'est peut-être le prix. Le prix dans les étals de supermarché, des fruits et des. On va se manger des doubles augmentations.
Posons la question au 32-16. Faut-il interdire les permis de construire en zone inondable?
C'est ce que la première nouvelle
Didier Giraud.
Mais t'interdis, tu dis pas non, bêtement. Tu dis, écoutez, je pourrais vous accorder le permis de construire, mais je vous explique ce qui peut se passer.
Mais
tu fais une projection aux gens et tu leur dis, voilà, votre maison
elle
peut être où? Tu vous signez ou pas?
J'ai entendu.
Il y a pas d'assurance.
J'ai entendu une dame, je crois que c'était sur BFM. Le journaliste lui demandait si elle savait. Elle a dit non, en fait, non, je ne savais
c'est
pas.
Censé, c'est censé
donc,
savoir, c'est
donc, je me dis, mais attends, mais comment c'est possible mais...
Non, c'est obligatoire, c'est obligatoire.
Donc, moi, je
c'est marqué
pas
dans
comment.
Les actes non,
mais,
de propriété.
Pardon, mais tout le monde a envie de vivre au bord de la mer,
oui.
tout le monde a envie de vivre au bord, pas très loin d'une rivière, d'un cours d'eau, etc. Après, effectivement, il faut aussi que chacun ait en tête qu'avec ces intempéries qui vont se multiplier, qui seront beaucoup plus fortes, il y a un risque. Bien je veux dire, à un moment donné, il faut aussi responsabiliser les citoyens. Le problème des responsables politiques, c'est qu'ils nous prennent tous un peu pour des enfants.
C'est ça.
On va s'occuper de vous, rassurez-vous, etc. Rien. Je crois qu'il y a aussi à chacun de mesurer les risques. Moi, j'entendais aussi sur BFM une femme qui disait, ça peut arriver, tant pis, moi j'assume.
Voilà.
Je suis au bord de la Garonne, je trouve
c'est
que c'est
comme
très
les gens
beau.
Qui construisent
et de temps en temps, il y aura des inondations.
Mais Olivier, c'est comme les gens qui ont des maisons en hauteur, un peu abrupt au niveau des falaises, etc. Bon, tu dis, moi,
un
personnellement.
Jour,
voilà. Non, mais c'est ça.
Non,
c'est,
mais le front de mer, par exemple.
Non, mais
quand t'achètes au front de mer il y a 25 ans, enfin.
Non, mais tu peux. La mairie, elle peut se sécuriser. Elle peut dire, moi, je vous dis que vous êtes en zone extrêmement inondable, c'est-à-dire pas juste inondable comme tout le monde, mais extrêmement inondable.
T'auras pas les
vous
pieds dans l'eau, tu peux mourir.
Par contre, vous voulez vraiment construire votre maison, et voilà. Nous, on décline toute responsabilité. Vous êtes informé que ce permis de construire va poser des problèmes. Et comme tu dis, tu laisses les gens avec leurs responsabilités. Mais l'État dit...
Parce que souvent, c'est moins cher aussi. Hein, ça permet d'acheter aussi moins cher ton logement.
Vous vous rappelez, dans les Charentes, quand il y a eu le...
À la faute sur mer
Érica.
Non, à Anglin, à Angoulin, Angoulin, vers La Rochelle.
Oui, la tempête Xynthia.
La Xynthia,
La faute sur mer,
Xynthia, tout ça.
Là-bas, c'est 2 mètres d'eau qu'il y avait.
Ah, mais c'était horrible.
Les gens sont morts.
Alors après, si tu achètes en deuxième ligne, c'est bien, tu fais un pari. Dans 50 ans, tu seras en première ligne.
Voilà, c'est ça, normalement. D'ailleurs, la Normandie est très à risque. Il y a plein d'endroits comme ça. Donc, faut repenser, comme dit Joël, l'aménagement du territoire, faut le repenser de A à Z.
Oui,
et pas forcément avec des idéologues, mais avec des
idéologues. Tu sais, il y a aussi l'histoire, parce que les villes, elles sont construites à côté de l'eau potable. Donc, à un moment donné, quand tu agrandis en périurbain, t'es forcément au niveau d'un cours d'eau. Parce que des villes qui sont pas construites près d'un point d'eau, historiquement, ça n'existe pas. Quoi, hein.
Oui, c'est ça.
Bon, en tout cas, il faut prendre notre mal en patience. Nouvelle tempête qui arrive. Et a priori, à partir de vendredi, il fera un peu plus sec.
Oui, jusqu'à vendredi prochain.
Peut-être, voilà. Enfin, bon. Bon courage à tous et bon courage surtout à ceux qui subissent de plein fouet ces inondations, qui sont les pieds dans l'eau et c'est compliqué. Il y a des problèmes de ravitaillement, problèmes d'eau potable.
C'est terrible.
Voilà,
c'est 260 000 foyers.
Et plus d'électricité. On va s'intéresser dans un instant à cette enquête très intéressante, justement, sur les jeunes. Enquête réalisée par Elab pour le Cercle des économistes qui a interrogé les 15-29 ans. Et ça bouscule pas mal d'idées reçues. Par exemple, on est loin d'une génération de la flemme. C'est plutôt une génération assez stressée, assez inquiète, ancrée dans le réel et qui justement se pose beaucoup de questions. On parle de santé mentale, mais aussi on parle de peur de la guerre, parce que c'est vrai que les adultes ne cessent de parler d'un risque de guerre. Et on se projette aussi dans le futur, qu'est-ce qu'on va devenir, quels seront les métiers demain, etc. Est-ce qu'on a une génération de jeunes stressés, angoissés? Appelez-nous au 32-16, peut-être que les parents ont des témoignages à nous apporter notamment. À tout de suite sur RMC et RMC Story.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
One, two, three, four.
La suite des grandes gueules sur RMC, RMC Story, avec autour de la table aujourd'hui Joël Dagosséry, la coach de vie, Didier Giraud, l'éleveur de bovins, et la fonctionnaire Zora Bitan. On n'oublie pas que les GG seront à Marseille demain à partir de 9h, première escale de notre tournée spéciale municipale. Marseille au Palais de la Bourse, 9 rue de la Canebière. On vous y attend, hein, c'est ouvert au public. Mais pour cela, il faut s'inscrire pour réserver sa place. Vous envoyez un mail à public@rmc.fr, public@rmc.fr. Autour de la table demain à Marseille, Abel Boyi, Antoine Diers et Laura Varton Martinez. On va s'intéresser maintenant, mes chers grandes gueules, à cette enquête sur notre jeunesse. C'est une grande enquête réalisée par Elab pour le Cercle des économistes qui bouscule peut-être certaines idées reçues sur la jeunesse. Par exemple, on dit souvent c'est la génération de la flemme. Mais pas vraiment, c'est plutôt une génération, les 15-29 ans, assez ancrée dans le réel et justement peut-être trop dans le réel. C'est pour ça qu'on a une génération qui parle de stress, d'anxiété. Par exemple, 30% des jeunes interrogés déclarent avoir des problèmes de santé mentale de manière permanente ou régulière. Le sentiment d'isolement est centrale dans leur détresse. 64% des jeunes interrogés se sont déjà sentis seuls. 29% considèrent que c'est un problème permanent. C'est pas rien quand même. Et puis c'est une jeunesse aussi qui est en proie à des addictions. 34% déclarent avoir déjà eu une addiction, alcool, tabac, drogue. Les plus jeunes ne sont pas épargnés, les 15-17 ans. Alors que fait-on de ce résultat? Est-ce que vous le constatez vous-même? Certains d'entre vous, vous avez des enfants, des petits-enfants. Est-ce que vous sentez beaucoup d'angoisse et de stress chez les jeunes habitants?
Moi qui suis engagé auprès des jeunes dans l'insertion, et y compris ruralité et quartier, je peux vous dire que c'est un vrai phénomène. C'est un phénomène, le sentiment d'isolement, d'échec, d'absence de perspective, de santé mentale, de rupture, souvent avec la famille, de violence. Il est à chaque fois prégnant, et il explique justement cette sortie de route, sortie du système scolaire, etc. Et dans la ruralité, c'est particulièrement présent. C'est pour ça qu'avec une équipe, on est beaucoup sur le terrain auprès de ces jeunes, et moi en particulier depuis de très nombreuses années. Mais regardez le phénomène de ce qu'insuffle la classe politique. Faut quand même s'y pencher un peu. D'abord, il n'y a pas que les jeunes qui sont dans cet état. Moi, pour être dans cette tribu avec presque 8000 personnes où on échange beaucoup, et pour être bien au fait des réseaux et parler avec beaucoup de gens, parce que je suis quelqu'un de très très sociable et très proche des gens, il y a un phénomène de à la fois d'isolement et puis de perte de confiance, de perte de perspective. Mais la classe politique, elle donne le ton. Moi, personnellement, je vais vous dire ce qui me manque. Il manque pas un plan avec des détails, on va faire ci, parce que ça viendra après. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque l'espoir, il nous manque un cap, un horizon, quelque chose qui nous dit on y va et ça va aller mieux parce qu'on va faire ce qu'il faut. Tous les jours on nous dit ça va pas, ça va mal, il y a plus de sous, il y a plus de perspective, tu montes ta boîte, tu la coules, la santé mentale ça va pas, l'école ça va pas, les soignants ça va pas, la police ça va pas. Tous les jours ça va pas. Tous les jours, ça va pas. Et la classe politique, le président de la République, c'est la guerre. Pendant le Covid, c'est la guerre. Vous vous rendez compte, nous entrons en guerre. Le Covid a marqué un tournant incroyable dans l'anxiété des jeunes. Moi, particulièrement dans mon entourage, je connais une gamine qui, depuis le Covid, elle est en dépression profonde. C'est-à-dire qu'elle a atteint le handicap. Donc, quand les adultes ne sont plus capables d'avoir du courage, d'avoir de l'espoir, de tracer un chemin et de montrer que quelque part on peut s'en sortir ensemble, mais qu'il y a quand même une possibilité avec un peuple debout de faire quelque chose, eh ben croyez-moi que ça fait une autre différence. Sauf que tous les jours, ces oiseaux de mauvais augure nous annoncent toujours les trucs les plus plombants. Et donc les jeunes, en plus, ils ont TikTok, ils ont les réseaux, ils ont les fake news, ils ont le complotisme, ils savent même plus où est la bonne ou la mauvaise information. On leur dit, de toute façon, c'est même plus la peine d'aller à l'école, parce qu'il y a l'IA. De toute façon, l'IA va balayer tout le monde. Au lieu de leur dire, il y a un outil qu'est l'IA. L'IA, c'est comme un stylo, c'est comme un cahier, c'est comme Google. C'est extrêmement important ce sondage, parce qu'il raconte comment va notre société.
Joël Dagosséry.
J'ai fait un tunnel, pardonnez-moi, mais c'était important.
Tu es sorti, tu as fini juste à la sortie du tunnel.
Exactement, voilà, timing parfait.
Joël, c'est jeune. Alors toi déjà,
oui, bon,
tu as ta
fille. Maman, déjà, je suis jeune.
Tu es resté jeune dans ta tête, tu as une fille qui est ado.
Une fille qui est ado, qui va avoir 16 ans. Et moi, ce que j'ai vu, c'est qu'elle avait un niveau de conscience qui est arrivé bien plus tôt que de ma génération.
À son âge.
Ouais. Je me souviens déjà, donc la première chose qui m'a quand même interpellée, c'est à 8 ans, je crois, elle rentrait de l'école et elle était très angoissée à l'idée qu'on n'ait plus d'eau donc sur la planète dans 20 ans ou 25 ans. Et donc tous les jours, genre, alors je pensais que je sais pas si c'était un enseignement à l'école.
Parce qu'il y a une prof qui fait de la doctrine
à la fille, elle angoisse son eau, elle coule trop.
Pendant des mois et des mois, elle me dit, est-ce que, maman, c'est vrai qu'on n'aura plus d'eau dans 20 ou 25 ans? Ou alors, fais attention, on n'aura plus d'eau dans 20 ou 25 ans. Donc déjà, ça, c'est des préoccupations. Enfin, à 8 ans, tu t'occupes pas de ça. Donc ça.
Ça s'appelle de l'endoctrinement.
Ça veut dire
qu'on fait porter sur nos jeunes des angoisses adultes, quoi, en fait.
Bien sûr, puisqu'il faut maintenant les éduquer à l'écologie et je ne sais quoi.
Et donc, forcément,
les discours en France sur les problèmes sont alarmistes. Hein. C'est pas des choses qui sont qui t'apaisent. Hein. C'est plutôt alarmiste. Ensuite, là, elle a grandi. Donc à l'école, elle a commencé à être un peu angoissée. Donc sur les notes, bon, elle était dans un collège qui était très concurrentiel entre guillemets, et donc c'était très l'angoisse sur les notes, sur les machins, etc. Parce que s'il y a un discours, moi j'ai fait des conseils de classe en tant que parent d'élève. Le discours des professeurs, c'est t'as l'impression qu'ils jouent leur vie là en cinquième ou en quatrième, tu vois.
Comme si tout allait se jouer
là. Mais des fois, tu les entends parler, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Moi, j'ai une prof qui m'a appelée un jour, parce que ma fille avait des difficultés. Elle a des difficultés orthophoniques. Maintenant, ça va mieux, mais elle m'a dit, elle est en quatrième, qu'est-ce que vous allez en faire, madame? Je lui dis, mais attends, elle a 13 ans.
Elle a 13 ans.
Et c'est des discours qu'ils tiennent aux élèves. Donc, il y a déjà ça. Ensuite, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, avec cet esprit de comparaison qu'on a, nous, les adultes, hein, mais ils l'ont aussi, les enfants, en comparant la vie des autres. Ah bah oui, tu vois, celle-là, elle est géniale, celle-là, elle est belle, celle-là, elle est mince, celle-là, elle est grosse, celle-là, machin. Et donc, ça vient de l'angoisse. Et puis, ils sortent moins. Moi, j'ai dû forcer ma fille à un moment.
C'est une génération
qui
reste à la maison,
exactement.
Les réseaux sociaux.
Elle se revendiquait comme casanière. Là, ça va mieux. Elle sort pas mal avec ses copines. Mais pendant... moi, ça m'inquiétait parce que moi, je voulais tout le temps sortir.
Bah oui.
Moi,
mon truc,
c'était demander comment signer une autorisation, entre guillemets, sur papier pour mon père, pour qu'il me laisse sortir. Ouais. Elle, je dois lui dire, mais sors un peu, etc. Ouais. Donc, il y a aussi ça, c'est qu'ils ont l'impression d'avoir une vie sociale tout en étant à la maison parce que, bah oui, il y a Snapchat, il y a WhatsApp, il y a machin. Donc ça, c'est assez compliqué. Et puis, t'as le harcèlement scolaire. Enfin, je veux dire, c'est vraiment une génération qui est pas gâtée.
Est-ce qu'on n'a pas une responsabilité, nous, adultes?
Tu as tout à fait raison. Le discours politique, franchement, vient pas aider.
Pardon, mais les grands débats.
La préoccupation, c'est les retraités.
Les grands débats, c'était la retraite.
La retraite.
Maintenant, c'est la fin de vie. Vous avez vu?
Exactement.
Et avec une urgence, il faut à tout prix voter un truc sur la fin de vie.
Jeunes,
c'est vrai que c'est une urgence.
Attendez, les jeunes et la famille, pareil, t'as vu?
Rien. Oui, alors la famille, elle est en grande souffrance. Elle est absente des débats et des discours.
Mais vous savez pourquoi aussi? Parce que les jeunes votent moins. Donc.
Oui, mais
le politique, c'est une part de marché. La part de marché, c'est les vieux.
Donc on parle
fin de vie, on parle du sujet qui intéresse les personnes âgées, donc fin de vie, retraite.
Le politique, sa mission, c'est paradoxal parce qu'on nous dit qu'il y a la natalité est en berne.
Ah bah oui.
Et à côté de ça, on veut pas parler aux jeunes. Alors, il faudrait savoir,
si vous entendez Monsieur Lecornu ou les autres, ceux qui sont au pouvoir, même Emmanuel Macron, on pensait qu'en mettant au pouvoir un président jeune, bien justement, la jeunesse est en avant.
Il y a pas longtemps,
Emmanuel Macron déjà s'exprime plutôt comme
dès l'âge, on leur interdit.
Voilà, le seul truc qu'on leur dit, c'est il faut pas faire ça. Donc c'est dont l'interdiction.
Au lieu de les éduquer à ça. Dans toute la liste d'addictions que t'as fait, moi je pense qu'il y a celle-là quand même qui a changé. La différence entre les jeunes, t'as dit l'étude 16-25,
15-29 ans.
15-29 d'aujourd'hui ou 15-29 d'il y a 30 ans, pour moi, il y a un vrai changement, c'est l'addiction à l'écran. L'addiction à l'écran, et du coup, qui consomme le temps de l'insouciance, le temps de la relation
aux autres.
Ouais, mais le temps à l'ennui, tu vois. Un gamin de 2 ans, ses parents lui foutent un portable dans les mains pour un, pour l'occuper, pour être tranquille. Et quand tu demandes à ce même gamin, quand il a 7 ans, 8 ans, pourquoi il a tout le temps un écran à la main? Parce que sinon, il s'ennuie. Je pense que quand moi, j'avais 7 ans et 8 ans, on jouait.
On s'ennuyait parfois.
Et on avait beaucoup. Ce temps à l'ennui. Et il y a eu tout ce temps, un peu pré-adolescence, de l'insouciance, voire adolescence, de l'insouciance. Et c'est ce système d'angoisse qui rentre très tôt dans la vie des enfants, à mon avis, il est un peu lié à ça. Et après, moi, ce que je veux dire, c'est pas inéluctable, ça.
Oui.
Moi, j'ai deux gamins qui sont super bien dans leur vie. Le ch'ti, il vit de son sport et de sa passion. Peut-être il me cache des choses, mais moi je crois pas qu'il soit sujet à la déprime.
Alors, je voudrais qu'on donne la parole au 32-16 parce que on a des appels et notamment des parents qui nous appellent, comme Gaël du côté de la Dordogne. Bonjour Gaël.
Bonjour.
Vous avez deux enfants, deux garçons, c'est ça, deux ados?
Ouais, tout à fait, ouais, deux ados, ouais. Et effectivement, bah, ça fait un peu peur parce que moi, je vois, pour prendre exemple, nous, comme on disait, à notre époque, on voyait nos parents, moi, il n'y avait que mon père qui travaillait. Bah, il travaillait beaucoup, il trimait, il faisait des heures, mais par contre, il avait sa maison, on partait en vacances, on faisait des choses. Et là, malgré tout, il voit bien que nous, on travaille, ma femme travaille, je travaille. Malheureusement, on a du mal à s'en sortir, comme beaucoup de Français, je pense. On leur offre ce qu'il faut. Mais je pense que c'est hyper anxiogène pour eux, quoi. Le grand, il a commencé la marine pour faire l'école de sous-officier. Le général est venu lui parler et quand il a fait le discours, bah, deux semaines après, mon fils m'a appelé et m'a dit non, je veux rentrer, papa. Ça fait trop peur. La guerre, ça fait peur. Mon ado de 17 ans, là, il va passer le bac, bah, il sait pas quoi faire derrière. Comme il me dit, je vais faire quoi comme boulot? Il y en a, ils ont des diplômes. Ma sœur, elle a un bac plus 5, et elle a pas non plus une paye de 5 ou 6 000 euros. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'ils ont peur de tout ça, quoi. Alors, pour les écrans, oui, je suis d'accord aussi, mais je pense que c'est un refuge quelque part. Vu qu'il y a.
Ouais, mais à travers ça, on les fait rêver aussi, hein. Enfin, je suis désolé.
Oui,
ramener une paye de 5-6 000 euros qui fait rêver vos adolescents à l'époque de nos parents, voilà quoi. Des salaires comme ça, ça existait, mais ça faisait rêver personne parce que c'était très rare. Aujourd'hui, les gamins, ils veulent être footballeurs ou influenceuses, quoi.
Mais on pouvait vivre quand même. Vous voyez, quand je dis, par exemple, nous, on pouvait faire des choses. Moi,
je comprends.
Non, mais il y a le sentiment qu'on vivra moins bien que nos parents ou nos grands-parents.
Avec le peu d'argent qu'on avait, il a construit sa maison, personne l'embêtait, il a agrandi.
Oui, mais j'ai compris ce que vous dites.
Il y avait des règles, mais bon. C'était moins strict.
Alors après, il faut positiver aussi, Gaël, ce que aujourd'hui le monde moderne nous apporte. On peut plus facilement voyager. On a aussi, on est en meilleure santé. Il y a aussi beaucoup d'opportunités. Il y a des nouveaux métiers, etc.
On peut voir les choses, de manière positive.
On peut voir les choses de manière positive.
Chez moi, les gamins à 11 ans, ils descendent à la mine. Hein.
Voilà.
Donc ça va mieux.
Il y a 100 ans, les gamins, ils descendaient à la mine à 11, 12 ans. Hein.
Non, mais moi, je vous rassure, moi, à 12 ans, je portais des sacs de ciment qui, à l'époque, faisaient 50 kilos. J'imposerais pas ça à mes enfants. Mais on l'a fait, mais on trimait. Et on trimait pour quelque chose. Derrière, on avait quand même un
espoir. Le travail, je suis d'accord, Gaël, que le travail paye peut-être moins, mais il paye encore.
Comme vous le décrivez, il existe quasiment plus.
C'est juste que les choses sont moins linéaires qu'avant. C'est moins, je sors de l'école, j'ai mon CDI, j'y reste 20 ans ou 23 ans ou 30 ans, et puis j'achète ma maison, etc. Là, ils vont devoir faire preuve de plus d'ingéniosité et ils ont de la chance, c'est qu'ils ont des outils pour les aider à ça. Nous, des outils que nous, on n'avait pas. Donc, moi, je te dis qu'il va y avoir deux catégories de jeunes. Il y a ceux qui vont très vite comprendre que il y a des chemins de traverse, que il y a les outils, il faut s'en emparer. Et puis, tu as ceux qui vont peut-être essayer une voie assez classique et vu comment la France se comporte aujourd'hui et comment elle se porte, eh ben, ça va être compliqué. Oui. Voilà, c'est tout.
Mais tu vois, ça, Joël, ça a toujours existé, hein. Mais ce que tu décris, c'est les attentistes qui attendent que ça tombe et puis ceux qui se prennent en main et qui font les
choses. Non, mais je pense que puisqu'on va rentrer en période de campagne présidentielle où nos responsables politiques vont faire de belles déclarations, de belles promesses, je pense qu'il faut arrêter avec les discours anxiogènes. Il faut faire des discours.
Faut
pas raconter n'importe quoi, il faut dire la réalité. Mais les discours anxiogènes sur la guerre, la guerre est à nos portes, que tient par exemple le président, et c'est une façon de gouverner par la peur, bon, très bien, mais que tiennent sur les plateaux télé des militaires et autres. Et puis l'autre discours sur le climat. Non, on va trouver des solutions, on va s'adapter. L'homme est toujours là parce qu'il s'est adapté.
Et puis la classe politique, elle ignore quelque chose, comme elle est complètement déconnectée des Français. c'est qu'elle n'est pas inapte à l'espoir, elle n'est pas inapte à la mobilisation et elle n'est pas sourde à la nécessité, à la réalité, à la nécessité de se retrousser les manches ensemble. Moi, je le vois bien parce que les gens, une lueur d'espoir, ils viennent parce qu'ils ont besoin de ça. On a besoin de ça pour construire quelque chose à la fois pour nous et pour nos enfants. Et la classe politique, elle a l'impression qu'elle va vivre, qu'elle va mieux vivre sur, comme dit Olivier, sur la guerre, sur la peur, etc. Or, elle a tout faux. Elle n'a rien compris. Le peuple attend autre chose. Et c'est une réalité. Mais tant pis, sans être démago, exactement, c'est la réalité. Non, mais ça veut dire que tu peux combiner la réalité et l'espoir. Voilà.
Mais
c'est
pourquoi, tu vas avoir, je te disais, ces deux catégories de jeunes, parce que tu vas avoir aussi deux catégories de parents. On peut plus se reposer sur l'État. Moi, par exemple, je me repose pas sur l'État. Je sais que l'État n'est pas en capacité de
croire. Qu'il est mieux
mais
que
même
toi.
Dans l'instruction, je sais qu'il est défaillant. Et donc, t'as des parents qui sont avertis, qui connaissent à peu près comment le monde évolue, les nouveaux outils et qui vont transmettre ça à leurs enfants. Moi, ma fille, je la tiens au courant de mes découvertes sur l'IA, etc. Et des fois même en pratique ensemble. Et t'as des parents qui peut-être sont moins avertis et du coup qui vont plus dépendre de l'État et de ses moyens et où il va y avoir du coup une grande cassure. Voilà ce qui va se passer. Et tu vois, quand les jeunes s'intéressent à l'actualité, par exemple, à chaque fois que ma fille s'intéresse à l'actualité, ce qu'elle me rapporte quand elle rentre à la maison des jeunes, elle est rentrée, elle m'a dit « Ah, c'est vrai que Macron, il veut interdire les réseaux sociaux ?» Et puis, une autre fois, elle est rentrée, elle m'a dit «
On a un président qui a quoi ? Qui n'a pas 40 ans, mais qui a 70 ans dans sa tête. »
C'est vrai qu'on veut réduire les vacances,
éduquer aux réseaux sociaux.
Donc, en fait, ça, c'est la vraie différence.
Que des nouvelles.
Les réseaux sociaux, ça plaît aux vieux. Hein. Ah ben, les vieux, ils sont tous d'accord. Mais de toute façon, on a un discours, pardon, de vieux tenu par des jeunes. Et Sébastien Lecornu, il n'est pas très vieux non plus. On est censé être…
Regarde ses pulls.
Et ceux qui arrivent, Gabriel Attal et Jordan Bardella, là qui sont jeunes, ils tiennent aussi des discours.
Mais c'est dingue, parce que leur ambition, c'est de faire vieux.
Un jour, il y en a un qui va se lever, qui va parler aux jeunes et tu verras qu'il sera élu. Parce que les jeunes, aujourd'hui, ils ne vont pas voter.
Oui,
ils s'en foutent. Mais le jour où il y en a un qui leur parlera, ils vont voter pour lui.
On en connaît un, c'est le vent, qui s'appelle Jordan Bardella, et qui a l'âge des… Non, mais on dit ce qu'on veut.
Je trouve que son discours est assez vieux.
Il est devenu.
Je trouve qu'il part comme Chirac maintenant. Chirac est de
retour. Et d'ailleurs, quand on regarde la classe politique, personne ne parle aux jeunes. C'est la folie, quoi. C'est inquiétant parce que on nous fait un plan sur la natalité, puis après on méprise totalement la génération de jeunes. C'est incompréhensible.
Vos jeunes sont-ils angoissés, stressés? On a posé la question sur le compte X des grandes gueules et vous avez répondu à… C'est assez partagé, mais quand même, c'est oui à 54,3%, non à 45,7%. Tout le monde ne s'est pas retrouvé dans cette étude. Dans un instant, les loups. On a voulu réintroduire les loups en France. Pourquoi pas ? Le problème, c'est que c'est une catastrophe pour les bergers, pour les élevages. Et donc, désormais, on va autoriser le fait de tirer sur les loups en cas de risque sur les élevages. Mais bien sûr, certains trouvent ça scandaleux. Alors, de quel côté êtes-vous ? On en parle avec vous au 32-16. À tout de suite sur RMC, RMC Story.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Gueule sur RMC, RMC Story avec autour de la table Zora Bitan, Joël Dagossiri et notre éleveur de bovins venu de Saône-et-Loire chaque semaine, Didier Giraud. Bah tiens, on va parler d'une colère agricole qui monte notamment parce que les loups font de plus en plus de dégâts. On a décidé il y a quelques années de les réintroduire en France. Bon, pourquoi pas? Le problème, c'est que visiblement, on n'arrive pas à maîtriser la situation à tel point que la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, va autoriser les éleveurs prochainement à tirer sur un loup ayant attaqué un troupeau. Les territoires fréquentés par le loup sont passés de 10 à plus de 60 en 10 ans. Le nombre d'animaux d'élevage tués est à la hausse avec 12 000 victimes en 2025. Vous pouvez imaginer la colère notamment des éleveurs, des bergers. Certains départements sont plus touchés que d'autres. La Haute-Marne, par exemple, particulièrement, où le nombre d'attaques a explosé avec quand même 800 pertes sur la seule année 2025 et 124 depuis ce 1er janvier, selon des chiffres
chiffres donnés par la ministre de l'Agriculture. Alors, on a assoupli les conditions de protection pour les éleveurs, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aller plus loin. Faut-il effectivement permettre aux éleveurs de tirer sur les loups qui menacent leurs élevages? Le 32-16 pour intervenir. Didier Giraud.
Te rappeler qu'est-ce qui change, comment c'était avant. T'avais une attaque de loup, alors mouton ou bovin, hein, parce qu'il y a aussi des attaques sur bovins. Entre autres, en Haute-Marne, là, dans les 124, il y a à la fois des moutons, mais à la fois des bovins. T'avais une attaque de loup. Donc, il fallait faire constater. Donc, il y a les agents de la biodiversité, de l'Office des forêts et de la biodiversité, qui venaient constater par prélèvement salivaire sur la carcasse que c'était bien génétiquement un loup. La salive a dans ses gènes, enfin, on pouvait prouver que c'était un loup. À partir de ce moment-là, l'éleveur avait obligation de se protéger, c'est-à-dire de monter les clôtures, le système de protection. Et s'il y avait une autre attaque, malgré ces protections, il pouvait déclencher ce qu'on appelle la brigade loup, qui sont les lieutenants de louveterie, hein, c'est un corps d'État, les lieutenants de louveterie, qui étaient les seuls autorisés à tirer le loup en prédation. Le loup passait devant eux, ils n'avaient pas le droit de le tirer.
Mais il faut attendre que le loup attaque.
Si le loup attaquait, voilà. Voilà quelles étaient les différentes étapes avant de pouvoir
tuer. Une usine à gaz française. Voilà.
Et ce qui va se passer aujourd'hui, c'est qu'un loup qui attaque un troupeau, l'éleveur va pouvoir tirer dessus.
Prendre son fusil et lui tirer dessus.
Sans même qu'il ait pu...
Il n'y a pas besoin de prévenir 15 personnes avant.
Voilà, et puis le fait de se protéger. Parce que un des vrais enjeux, c'était la protection. Alors, quand tu as des troupeaux de milliers de têtes en montagne et puis que tu les redescends à l'enclos tous les soirs, bah, c'est facile de les protéger. Quand tu as, comme chez moi dans le Charolais... 5 brebis là, 6 brebis là, 7 brebis là, 8 brebis là. Tu peux pas surveiller tout le monde, tu peux pas mettre des chiens de protection partout. Et à un moment donné, c'était le type d'élevage de la plaine qui devenait impossible de protéger les animaux. Voilà, c'est ça qui change. Moi, je suis pas pour dire il faut tuer tous les loups, même si je lis un peu l'histoire et je sais pourquoi on a tué les loups, pourquoi on a éradiqué les loups. C'est parce qu'à force d'en avoir trop, un jour, ils attaquaient les humains. Et ça, c'est déjà arrivé. On peut me dire que non, mais c'est déjà arrivé dans l'ère moderne que les loups attaquent les humains, pas en France, mais c'est arrivé. Et à un moment donné, je pense que la problématique, c'est la régulation. C'est qu'à partir du moment où le loup a été réintroduit et qu'il est bien nourri, bah, il prolifère. Comme au début, il y a eu des mensonges sur les comptages de loups. À un moment donné, ça a proliféré et la situation a explosé et on n'est plus capable de la réguler aujourd'hui, sans abattre des loups, quoi.
12 000 bêtes sur une année, c'est énorme.
12 000 bêtes tuées, oui, c'est énorme, ouais.
Donc, ça fait des dégâts.
Ah ben.
Alors, en plus, surtout derrière, on indemnise.
Ceux qui vivent avec ça, je peux te dire que c'est pire que les adolescents, hein. Et les mecs, ils ont des problèmes psychologiques, hein. Parce que vivre avec le loup chez toi,
avait besoin de réintroduire le loup. Pardon, je pose une question.
Ça, c'est le débat philosophique. Pardon, pourquoi on a éradiqué le loup? Après, certains t'expliqueront qu'il était là avant nous et que c'est important qu'il soit là. Mais moi, je pense que si on a éradiqué le loup, c'est parce que il était pas compatible avec l'activité humaine, tout simplement.
Mais habitants.
On revient sans rentrer dans les détails d'un spécialiste comme Didier Giraud qui connaît bien la question, qui est éleveur. Donc moi je rentrerai pas dans les détails, mais je réponds à la question. Tirer sur les loups devient autorisé en cas de risque sur les élevages, justifié ou scandaleux. Là on confie la responsabilité aux éleveurs. Donc c'est quand même, tu vois, on se plaint qu'on infantilise les populations. Là, pour le coup, on confie la responsabilité aux éleveurs. Donc moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose parce que c'est eux qui savent. C'est eux qui savent à un moment donné quand leur élevage est en danger et quand les loups menacent dans les environs. Donc moi, je trouve que à chaque fois, et c'est peut-être un cas d'école, mais à chaque fois que l'État peut confier la responsabilité à des gens qui vivent les choses. Parce que la déconnexion, le problème, il vient d'où? C'est que parfois, des gens, dans leur bureau et dans les tableaux Excel, prennent des décisions qui sont totalement déconnectées de ce que vivent les gens.
Dans ce dossier-là, il y avait de la doctrine.
Voilà, bien sûr, en plus. Donc là, on a évolué parce que pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de réponse. Parce qu'il n'y a pas de réponse. Et qu'ils savent très bien que même en costard, derrière un tableau Excel, le premier qui va dégainer une réponse, il va dégainer une réponse claquer au sol, qui va rien avoir avec ce que vivent les éleveurs. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont transféré la responsabilité aux éleveurs. Moi, je trouve ça bien. À partir du moment où les éleveurs jouent le jeu et que la vocation n'est pas d'éradiquer les loups, mais justement de protéger les élevages, allons-y. Voilà. Et ben, si on pouvait appliquer ça un petit peu partout, ça serait plutôt pas mal. Ça on commencerait déjà par responsabiliser les citoyens et leur donner un rôle dans la société.
Joël, avant d'écouter Aurélien qui nous appelle du côté de la Seine-et-Marne en région parisienne.
Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à Noël, on a eu une superbe publicité
avec le loup
d'Intermarché.
Mon fils adore. Mon fils adore, par exemple,
qui nous a tous émus parce que le loup était devenu.
On a fait croire aux gens qu'un loup c'était végétarien,
on pouvait se faire des amis, etc. Mais on redécouvre là que la vraie nature du loup, non, ça n'est pas ça, et on ne risque pas de le transformer en végétarien. Et je pense complètement comme Zora, au-delà de la responsabilité, je crois à la confiance. Je crois à la confiance. Et je crois à une politique de confiance. Et donc, moi, j'ai confiance aux éleveurs. Moi, je considère, pas comme les écologistes, je considère que les éleveurs, les agriculteurs sont des amoureux de la terre et des amoureux des animaux.
Parce que
s'il y a des gens qui sont en contact avec les animaux, c'est bien eux et pas un écologiste qui est assis dans son bureau à l'Assemblée nationale. Donc, je veux croire qu'on peut leur faire confiance pour ne pas tirer sur un loup qui ne s'attaquerait pas à leurs bêtes. Voilà. Et donc, je crois que c'est de bon sens et dans la droite lignée de la responsabilisation et de la confiance de dire aux éleveurs, si vous vous sentez attaqué, si le troupeau est attaqué, à ce moment-là, défendez-vous
et défendez-vos.
Alors, donnons la parole à Aurélien qui nous attend 32-16. Bonjour Aurélien.
Bonjour les grandes gueules, bonjour l'équipe.
Vous avez entendu les arguments des grandes gueules qui disent, effectivement, il faut autoriser les éleveurs à pouvoir tirer sur le loup qui menace le troupeau.
Alors moi, je suis un grand défenseur des loups. Alors je ne suis pas chasseur ou autre. Je défends ce loup depuis que je suis enfant parce que c'est un animal qui me fascine. Et bon, alors le seul argument que j'aurais à dire, c'est que comme tous les animaux, ils étaient là avant nous et c'est nous qui avons empiété leur territoire. Et du coup, on les chasse et on les tue. C'est un petit peu malheureux quand même.
Oui, mais c'est un argument peut-être un peu court, parce que si l'homme a pu se développer, c'est pas justement, il a maîtrisé aussi la nature et
son
environnement. Parce que sinon, on serait toujours dans une caverne.
Ils étaient tous là avant nous, ok.
Bien sûr.
Non, mais moi, je vais vous opposer.
Ça veut pas dire ça, il faut faire n'importe quoi.
Je vais vous opposer quelque chose, Aurélien. Il y a des zones énormes en France où le loup a repris pouvoir sur la nature et les éleveurs de moutons principalement ils jettent l'éponge. Moi, j'en connais plusieurs dans les Alpes de Haute-Provence, dans les Hautes-Alpes. Il y en a un, il y a pas longtemps, en Haute-Marne. C'est des gens, à force d'avoir des attaques toutes les nuits, ils arrêtent le métier, ils abandonnent le métier. Ces zones-là sont des zones de déprise. Et quand ces zones-là, il n'y a plus d'éleveurs, il n'y a plus de pastoralisme, il n'y a plus de moutons pour entretenir la nature, ces zones-là, elles partent en friche. Et demain matin, il y aura des incendies. Il y aura des incendies dans ces zones-là et on viendra pleurer sur le fait que on n'arrive pas à maîtriser les incendies. C'est exactement ce qui s'est passé l'an dernier, quoi. C'est qu'à un moment donné, on ne peut plus arrêter les incendies quand il n'y a pas un minimum d'entretien, quoi.
Comment? Pardon, on vous a pas entendu rien.
Excusez-moi, il y a combien de morts de moutons par rapport aux morts de loups chaque année, par exemple?
Le plan loup qui régulait, on tue en France entre 120 et 200 loups par an, il y a 18 000 animaux d'élevage qui ont été tués, quoi. Donc, le rapport, il est vite fait, quoi.
D'accord, mais il me semble qu'il n'y a pas si longtemps que ça, quand même, le loup était quand même un animal qui était en voie de disparition en France. Il y a quand même
Il avait même disparu. C'est l'homme qui l'a réintroduit, du coup. Là, c'est une action, vous voyez, c'est une action humaine. Parce que le loup avait disparu en France.
Oui,
on a décidé d'en réintroduire.
Donc c'est un petit peu le loup qui se mord la queue, alors, si je peux dire.
Oui, il y a un très bel exemple là-dessus. C'est le parc de Yellowstone. Yellowstone, ils ont créé Yellowstone à la fin des années 50. Ils ont éradiqué tous les prédateurs pour qu'à l'intérieur du parc, le wapiti puisse se développer. Ils ont fait ça pendant 20 ans. Au bout des 20 ans, le wapiti s'était tellement développé qu'il avait rasé toutes les jeunes pousses d'arbres. Il n'y avait plus de forêt, il n'y avait plus que des prairies. Donc ils ont réintroduit des loups à Yellowstone. qui a baissé les populations de wapiti, mais aujourd'hui, ils en sont à dire il y aura bientôt plus de wapiti, donc ils en sont à réguler
donc,
le loup.
Donc finalement, c'est l'homme qui régule.
Et à un moment donné, il y a besoin de régulation dans tout ça.
On va se retrouver dans un instant, on va laisser les loups de côté pour aller à Nîmes avec ce drame, cet enfant de 8 ans qui a été fauché mortellement par un mineur sans permis.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.